Sarah Moudre,
Julie Clarini,
Iris Couturier.
Langage totalitaire et résistance des intellectuels. Alors que l'actualité politique nous ramène une fois encore à la question de l'engagement des intellectuels et donc à celle de leur responsabilité morale et de leur influence réelle sur les choix collectifs, paraît un livre important sur la question du langage et de ses usages. Dans Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit, le philosophe Jacques De Witte nous invite à réfléchir sur la capacité du langage à dissimuler, jusqu'à les faire disparaître de la conscience collective, les réalités qui contredisent les préjugés du pouvoir. Sur cette autre capacité perverse du pouvoir à faire apparaître des utopies que contredit l'expérience quotidienne de ses usagers, mais aussi sur le pouvoir que peuvent prendre les écrivains lorsqu'ils se risquent à détourner des mots apparemment usés par l'idéologie pour tenter de dire quand même la vérité. Certes, les auteurs sur lesquels vous réfléchissez, Jacques De Witte, sont des gens qui ont livré bataille au totalitarisme. Le sanglant 20e siècle européen est, paraît-il, derrière nous. Les intellectuels aujourd'hui sont réputés plus modestes et plus sages. Pourtant, comment ne pas entendre que d'autres novlangues sont venues altérer notre capacité à nommer les mots dont souffre notre société ? Nombre de commentateurs avaient relevé il y a 5 ans le formidable décalage entre la nature des problèmes qui assaillent notre société et la capacité de la classe politique et intellectuelle à les prendre en charge. Avons-nous beaucoup progressé depuis ? Par ailleurs, le recours à l'euphémisme dissimulateur, à l'invalidation sournoise des propos rapportés, la mauvaise foi partisane, la diabolisation manichéenne de l'adversaire, la réduction de celui qui parle ou de celle qui parle à son genre ou à son origine sociale, tous ces procédés ne nous rappellent-ils pas, comme en écho assourdi, les grands errements intellectuels d'hier ? Est-il encore possible de se mettre d'accord entre gens de bonne foi sur un même état des lieux, comme nous y appelaient les grands dissidents antitotalitaires ? Ou devons-nous nous résigner, comme le préconise le postmodernisme, à ne considérer que tout n'est qu'affaire de narratives et que chaque groupe social, sexuel ou ethnique est censé pouvoir construire dans son coin la version des faits qui cadre le mieux avec ses intérêts et préjugés particuliers ? Tels sont quelques-uns des sujets sur lesquels ce livre, Jacques De Witte, nous donne des outils mentaux pour réagir.
Alors Jacques De Witte, je rappelle que vous êtes philosophe et que votre livre vient de paraître aux éditions Michalon. Il s'intitule « Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit » et il est sous-titré « Essai sur la résistance au langage totalitaire ». Je remercie Sandra Laugier et Myriam Revaud-Allonne d'être avec nous ce soir dans ce studio. Sandra Laugier est philosophe, professeure à l'université d'Amiens. Elle est l'auteur, son dernier ouvrage s'intitule « L'ordinaire et le politique » avec Claude Gauthier. Il est sorti au PUF en novembre 2006. Et puis, parmi les ouvrages en lien avec notre émission, on pourrait cité du réel à l'ordinaire, quelle philosophie du langage aujourd'hui, qui est paru chez Vrin en 99, et faut-il encore écouter les intellectuels, c'était paru chez Bayard en 2003. Myriam Revaud-Allonne, on vous connaît bien, vous êtes également philosophe, professeur des universités à l'école pratique des hautes études, et votre prochain ouvrage s'intitule Modernité et sécularisation, il est écrit, dirigé avec Michael Fessel et Jean-François Kervégan, il paraîtra aux éditions du CNRS.
Alors, je voudrais commencer par évoquer quelqu'un qui vous est très cher, Jacques De Witte, c'est l'échec Kowakowski. L'échec Kowakowski, dans un livre, hélas, non traduit, il y en a beaucoup encore qui nous reste à traduire, qui s'appelle Modernity on Endless Trial en anglais, parce que je crois qu'il l'a écrit directement en anglais, il écrit à la fois en anglais, en allemand et en polonais. Il y écrivait que les intellectuels ne sont pas seulement, dans le chapitre de ce livre, chapitre 3, qui est consacré à la question des intellectuels, il mettait en relief le fait que les intellectuels ne sont pas seulement des médiateurs, des transmetteurs de mots, mais qui sont aussi des créateurs qui construisent la réalité, qui mettent en avant des perceptions du monde spécifiques et qui tentent de les imposer à autrui. Donc, ils ne cherchent donc pas seulement à transmettre des vérités, mais à en forger. Et donc, ça pose la question de l'idéologie des idéologues. Les idéologues jugent du monde tel qu'il est à partir de ce qu'ils pensent qu'il devrait être. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui, Jacques De Witte, que dans nos pays occidentaux où les paroles sont si frivoles, où les engagements sont si inconscients, constant, on puisse accorder aux intellectuels le pouvoir qu'ils avaient, mettons, à l'Est, dans des pays soumis à des idéocraties, où leurs paroles étaient rares, dangereuses, mais extraordinairement puissantes. Je me souviens que Miwash, dans La pensée captive, dit « Tant j'étais à l'Est, on m'écoutait, le président le secrétaire du parti évoquait par exemple Kouakowski dans son fameux discours de 56 comme l'adversaire numéro un du parti, et donc ça donnait quelque part aux intellectuels un relief et une puissance formidable. Chez nous en Occident, les paroles s'envolent, elles sont remplacées par d'autres, et finalement le poids des mots des intellectuels est très faible. Est-ce qu'ils ont encore une capacité à en nommant le réel, à le faire partager réellement?
Mais je crois que oui, de toute façon, mais donc je vous remercie d'avoir évidemment cité, pour commencer, Kolakowski ou Miloš, des gens que j'estime beaucoup, que j'ai traduit, enfin dans le cas de Kolakowski, la figure de l'intellectuel de l'Est, tel qu'il était en tout cas avant 1989, et c'est quelque chose de très important pour moi. Quand j'ai rencontré Kolakowski, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre style de pensée, une autre attitude humaine, que celle de ce qu'il est convenu d'appeler l'intellectuel critique français. Hein, citons Sartre, Bourdieu, Foucault, etc. Il me semble que chez ces gens-là, il y a bien entendu une caractéristique de tout intellectuel qui est l'esprit critique, mais un esprit critique qui ne débouche pas sur, comme c'est souvent le cas, un quasi-nihilisme, un esprit critique aussi qui est capable de s'appliquer à lui-même, de se critiquer lui-même, de voir ses propres limites. Et dans le cas de Kolakowski, c'est ça qui m'avait captivé quand je me suis mis à lire ces livres, aussi de retrouver un ancrage dans la culture européenne, la pluralité des traditions, libéralisme, socialisme, esprit conservateur, et donc justement de sans renoncer à la démarche critique, de retrouver une plus grande souplesse, de ce fait-là une capacité aussi d'analyse du monde tel qu'il est. Mais
Le poids des mots.
Le poids des mots. Mais peut-être que, en effet, on peut se demander si l'intellectuel a encore ce rôle. Mais il y a des mots, des phrases qui ont été prononcées et qui continuent, je dirais, à faire mal. Et ces jours-ci, j'ai beaucoup ressongé à Roland Barthes et à sa phrase célèbre « La langue est fasciste ». Hein, ça a été cité. Je suis en train de lire un livre très intéressant de Merlin Kajman, précisément consacré à ce titre-là. La langue est fasciste. Donc, cette phrase est intéressante à deux niveaux, parce que j'aimerais bien me définir par rapport à cette phrase et montrer...
Tout langage vient-il du pouvoir ?
Mais en même temps, je dirais que c'est aussi une confirmation de ce que vous dites. Il y a eu, en lançant cette phrase, Barthes a exercé un pouvoir. Cette phrase de Barthes elle-même a eu des effets. Voilà. Donc c'est à deux niveaux, si vous voulez.
Mais la question qu'il posait reste d'actualité.
Mais selon moi, la question...
Puisque la langue nous préexiste, voilà, et que parfois elle parle à travers nous.
Alors, bien sûr, Barthes nous dit la langue est fasciste, et il avait lu Jacobson, il avait bien compris que à travers Jacobson que quand on parle français et non pas russe, on est obligé, par exemple, de recourir à des articles. Donc on doit faire un choix, la langue nous détermine de cette façon. Nous sommes obligés de faire des choix. Il y a des exclusions de certaines choses qui n'ont pas de statut dans la langue instituée, et elle oblige. Donc c'est ce que Barthes souligne. Là-dessus, on ne peut plus donner lieu. Mais alors, il y a cette attitude que je déplore chez beaucoup d'intellectuels et que je trouve alors frivole, pour employer un de vos mots, c'est d'aller trop de lancer un coup de tonnerre, un coup de canon, une phrase fracassante. Sans être conscient de la responsabilité qu'on peut avoir en lançant une telle phrase et en réduisant le langage à cela. Bien sûr, il y a des effets de pouvoir, de domination, mais c'est en ça que je me distingue de Barthes. La langue, ce n'est pas seulement ça, c'est pas seulement la langue instituée, la parole, la langue au sens de Saussure, mais la parole, le discours, comme là, après montré Benveniste, il y a l'intenté du discours, ce que nous essayons de dire, et donc dans mon livre, je souligne cette dimension-là. Donc, la langue telle que nous l'apprenons nous donne aussi, selon moi, des ressources pour sortir
du piège
qui est aussi, par ailleurs, inhérent à la langue.
Sandra Laugier.
Je crois que Roland Barthes, par cette phrase qui est provocatrice, voulait vraiment attirer notre attention sur cette dimension du langage qui est que nous vivons dans le langage, qu'il fait partie, comme disait Wittgenstein, qui est un autre auteur très important pour ces questions de langage. Le langage est notre forme de vie, nous sommes éduqués, nous apprenons la vie dans un certain langage et
il
dans
structure
une langue.
Notre perception.
Et donc le langage, de fait, va réellement structurer notre vision du monde, hein, nous donner un accès au monde. Et c'est un point très important, et je crois que c'est cela que Barthes voulait dire sous cette forme un peu provocatrice, puisqu'on n'est pas peut-être assez sensible à cette dimension, à cette force, à cette emprise du langage. Mais je crois que ce qui est important, c'est de ne pas céder à deux illusions inverses, hein, en matière de langage, c'est-à-dire qu'on peut facilement, en effet, imaginer que le langage est une espèce de prison, hein, quelque chose qui va entièrement déterminer notre vie, notre vision du monde, et cela conduit en effet à des excès, à l'idée que, par exemple, il n'y a qu'une seule vision du monde possible qui va être la nôtre et celle de notre langage. Mais il y a une autre illusion qui est souvent propre à la philosophie du langage, qui est l'idée que le langage pourrait être un instrument purement transparent de description qui nous donnerait un accès direct au monde. Et donc, toute réflexion sur le langage est prise entre ces deux excès, c'est-à-dire soit le langage comme une contrainte extraordinaire, soit au contraire le langage comme quelque chose qui nous permettrait donc de décrire objectivement le monde. Et je crois qu'il est très important, et je crois que c'est cela aussi que veut faire Jacques de Witte dans son ouvrage, il est très important de sortir de cette alternative et de voir à la fois le langage comme en effet quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir, hein, donc cette force du langage, mais aussi voir comment cette force-là n'empêche pas précisément le désir de précision, de vérité, et donc il y a vraiment une liberté aussi possible dans cet exercice du langage, du fait même qu'il est parlé, qu'il est une parole.
Peut-être, Myriam Rowdallon, un des paradoxes de la situation, c'est que au XIXe siècle, par exemple, dans la tradition romantique, celle que Herder, par exemple, pourrait incarner, ou Michelet chez nous en France, bizarrement, le langage était plutôt ressenti comme une construction populaire, comme le trésor accumulé par les générations, et quelque part, il était doté d'une vertu subversive par rapport au pouvoir. Comment se fait-il que, à partir dans les années 70, pour refaire cette espèce d'historique qu'on est en train de faire brièvement, sous la plume de Barthes, par exemple, il apparaît comme au contraire le dépositaire du pouvoir lui-même. Et dans les analyses que fait Jacques de Witte, qui porte donc sur le langage totalitaire, on voit bien à quel point cette capacité dominatrice du langage a pu être poussée jusque dans ses dernières limites, jusqu'à imposer une réalité factice.
Oui, on en revient tout à fait d'ailleurs à la question qui avait été posée tout à fait au début là, de l'émission, c'est-à-dire au fond, l'intellectuel critique dans un système totalitaire ou dans un système post-totalitaire, pour parler le langage de Havel par exemple, ça est un intellectuel dissident. Bon, il est nécessairement un intellectuel dissident, ce qui fait que sa parole a un poids considérable par rapport au fond à ce que Arendt appelait le viol de la réalité par l'idéologie. Bon. Ça, c'est une très belle expression qui est tout à fait, au fond, conforme à ce qu'essaye de montrer aussi Jacques de Witte. Et donc, d'une certaine façon, dans cette situation particulière, le dissident, je pense à pas simplement au Kolakowski, Miloche, mais Havel, par exemple, il y a un certain nombre de textes dans les essais politiques. Donc, ça a un poids tout à fait particulier. Quand l'intellectuel critique dont nous parlons dans le système démocratique ou dans le mode d'existence démocratique, au fond, est un intellectuel qui s'exprime au sein du pluralisme des opinions. Bon, qui est tout à fait différent comme position. Je ne parle même pas de pluralité, là. Je parle du pluralisme des opinions et d'un pluralisme des opinions qui, au fur et à mesure que la démocratie, je dirais, se répand et s'étend comme mode d'existence universelle, ça vire à la relativité, à quelque chose qui peut virer au tout se vaut, d'où la possibilité d'une position nihiliste de la part de l'intellectuel, bon, qui a été adoptée par un certain nombre. Mais aussi, il y a un autre travers de l'intellectuel et du philosophe, qui est, je dirais, le fantasme de l'intellectuel ou du philosophe souverain, qui voudrait en quelque sorte légiférer, au sein de ce pluralisme des opinions. Donc on a évoqué un certain nombre, vous avez parlé d'un certain nombre de figures, vous avez parlé de Sartre, de Foucault, de Bourdieu, bon, mais il y a d'autres intellectuels critiques qui ne sont pas exactement dans la même perspective, et moi j'aimerais qu'on en parle. Vous parlez beaucoup de Ricoeur dans votre livre, Merleau-Ponty ou Claude Lefort, par exemple. Bon, ça, c'est une autre, une autre tendance, une autre famille qui, moi, m'est extrêmement chère, dont je me sens extrêmement proche, moi évidemment. Aussi, bon, et au fond, là aussi, on peut voir dans cette espèce de filiation ou de famille quelque chose aussi comme une capacité de résistance contre une volonté de légiférer, c'est-à-dire en fait une position très très particulière à l'intérieur du système démocratique. Puis je voudrais faire une dernière petite remarque. Moi je pense que la phrase de Barthes, elle va plus loin que ce que dit Sandra. C'est-à-dire que moi ce qui me gêne beaucoup, je comprends bien la langue, mais entre dire la langue est déjà là, ou est un déjà là, et dire la langue est fasciste, il y a une différence considérable. Donc moi ce qui me gêne beaucoup, c'est l'utilisation de du qualificatif fasciste, à cause de la réception que ça peut, que ça a eu et que ça peut avoir. Et puis il y a tout un processus de substantialisation de la langue, impossible à interpréter à partir de cette phrase.
Mais je crois que, donc, en effet, Barthes a pointé quelque chose de réel, transposé dans mes propres termes, je pourrais citer un passage de mon introduction, on pourrait dire aussi la langue est totalitaire, ou sous forme de question, la langue est-elle totalitaire? Et il y a quelque chose dans la langue, dans le langage, qui est quasi totalitaire, c'est ce que j'appelle, je rappelle des choses bien connues de ceux qui ont lu des travaux linguistiques, un partage premier entre ce qui est doué de sens et ce qui n'est pas, ce qui est pertinent ou non, relevant, irrelevant, n'est-ce pas? Donc, la phonologie, le lexique, etc. Et évidemment, tout le problème, c'est que ce qui n'est pas dans ce partage premier, tout se passe comme si ce qui était écarté par cette décision première n'existait tout simplement pas. Et alors je parle d'un pouvoir d'être et de néant, quelque chose de vertigineux, d'abyssal, mais qui est dans la langue elle-même.
Il totalitarisme. Faut pas mélanger. Voilà, c'est ça, je voulais en arriver au totalitarisme.
Non, mais la langue totalitaire est très spécifique. J'entre, si vous voulez, pour moi, le totalitarisme ne tombe pas du ciel. Il fait fond sur quelque chose, une tendance qui est inhérente à la langue, mais qui ne se réduit pas à ça.
Heureusement, chez Orwell, n'est pas totalitaire.
Chez Orwell, ça devient, dans le Newspeak, forger une langue telle qu'elle rendrait littéralement impossible toute pensée divergente. Voilà.
En truquant le langage, en l'appauvrissant, par exemple, vous citez dans Orwell cette idée assez géniale, qui est l'idée de la, comment ils appellent ça, l'archéolangue, comment on a traduit en français, le old language, on a traduit par
l'ancilangue.
L'ancilangue, voilà. Oui. L'ancilangue, c'est-à-dire toutes les conceptions qui sont considérées par le régime totalitaire décrit, imaginé par Orwell, comme dépassées, comme l'honneur, comme la morale, comme l'égalité, comme la liberté, tous ces mots sont caractérisés par un seul terme générique qui est l'ancilangue. Et l'ancilangue, elle est destinée, enfin, le terme même d'ancilangue, langue est destiné à enterrer ces notions du passé voilà. qui encombrent de leur présence encore l'espace totalitaire. Donc on voit bien qu'il y a eu un moment dans notre histoire au XXe siècle en Europe, je le disais encore tout à l'heure, il y a eu un moment où certains États, les États totalitaires en Europe, ont cherché à faire disparaître les notions intellectuelles, les concepts qui les embarrassaient en les caractérisant, on dirait aujourd'hui, d'archéo. Et ça suffisait à les invalider. Est-ce que vous... Alors, je vais passer peut-être à l'actualité plus brûlante. Est-ce que vous ne croyez pas que, en dehors même du totalitarisme, aujourd'hui, dans notre espace démocratique et pluraliste, comme vous le disiez à l'instant, il y a aussi, quelque part, disons, par exemple, le mot ringard, par exemple. Hein, si on dit ringard, archéo... c'est une façon d'invalider aussi des discours. On est encore dans l'ancilangue orwellienne. Myriam Revaud-Allonne.
Oui, moi je crois que cette idée est très intéressante. C'est d'abord, et c'est peut-être ce qui, je pense qu'il faut distinguer très très précisément les conditions de la langue totalitaire et l'exercice du langage dans le, comment dire, dans le système démocratique.
Bien sûr.
Mais il y a vraiment quelque chose qui me paraît... au fond, je dirais presque une tentation ou une espèce de fascination, qui est cette espèce de logique binaire, bon, l'ancien et le nouveau. Hein. L'ancien étant récusé, alors évidemment, dans le système totalitaire, ça s'articule à la fantasme de la régénération, de la fabrication, de la fabrique de l'homme nouveau, enfin, c'est toutes ces thématiques, et donc aussi une espèce de pensée, une sorte de philosophie de l'histoire qui fait du commencement un commencement absolu. Bon. Dans notre, disons, ère ou dans notre sphère démocratique, ça s'exprime d'une manière plus larvée, si je puis dire. Bon, ça, vous faites par une sorte de, par exemple, de valorisation du jeunisme. Bon, on voit très bien à quel type de tendance ça se réfère, donc le ringard, l'archéo. Bon, alors toute la discussion sur, surtout très actuelle, très presque là depuis ce matin, les éléphants du PS qui reviennent. Oui. Voilà, c'est ça. Mais on ne lit que ça dans les journaux, c'est-à-dire au fond la discussion sur quand on invente quelque chose, est-ce qu'il faut inventer quelque chose en se débarrassant complètement de ce qui est passé, ou bien. Et c'est là où l'analyse de Jacques De Witte est très intéressante, quand il dit qu'on est à la fois, que les intellectuels sont à la fois des transmetteurs et des créateurs. Et que donc, au fond, le déjà là, c'est pas toujours un enracinement dans un passé qui est un passé clos. Et donc, au fond, c'est ça, c'est une question qui est très difficile à penser, le rapport du continu et du discontinu, de l'ancien et du nouveau, de qu'est-ce que c'est que commencer quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'inventer.
Oui, il faudrait d'ailleurs remarquer que dans ces deux pôles que représentent le nouveau et l'ancien, et dont effectivement l'ancien sert souvent à stigmatiser, enfin paraît, enfin, en fait l'ancien c'est l'authentique, hein, voilà, si on fait un champ lexical un peu rapide, on voit aussi que d'une certaine façon il y a des tentatives aujourd'hui de se libérer de certains mots. Et je pense à ce qu'on a appelé le langage du politiquement correct, qui était à certains moments une façon pour les minorités de se débarrasser de mots anciens qu'ils ne voulaient plus, dont ils ne voulaient plus porter l'histoire. On a vu que c'était aussi au nom de cette idée que l'ancien était plus authentique qu'il fallait lutter contre ces nouveaux mots. Et ça parce que dans le livre de Jacques De Witte, on ne l'a pas encore dit jusqu'à présent, il y a une réflexion très intéressante. Enfin, la plupart de l'ouvrage, évidemment, concerne la langue totalitaire, mais il y a un parallèle avec ce qu'aujourd'hui on appelle le politiquement correct. Et j'aimerais bien qu'on en discute un peu, parce qu'il me semble que là, il y a matière vraiment à débat. Est-ce que nos sociétés sont à la fois, comme il le dit, antitotalitaires et néototalitaires dans cette façon d'employer le langage ? Sandra Laugier.
Oui, je crois qu'il faut peut-être ne pas confondre deux types de contraintes du langage, hein, puisqu'il y a une contrainte qui est vraiment naturelle au langage, qui est du fait qu'on parle une langue, qu'on est à l'intérieur, et je crois que ça n'a guère de sens de considérer cela comme totalitaire, hein, c'est vraiment notre forme d'existence. Et de l'autre côté, un autre type de contrainte qui est dans l'usage de certains mots qu'on va utiliser pour, par exemple, blesser ou classifier les gens. Et là, tout un pan de la philosophie du langage qui est très intéressant sur ce plan-là et auquel Jacques De Witte fait allusion dans son ouvrage, qui est la théorie des performatifs, hein, et qui est très utilisée justement chez les penseurs des minorités du politiquement correct, c'est-à-dire la théorie d'Austin selon laquelle certains mots sont en fait des actions et que donc, par exemple, lorsque vous dites en effet de quelqu'un qu'il est ringard ou lorsque autrefois on disait PD, etc., c'est un mot qui va être une façon de placer quelqu'un dans une certaine situation et donc tout le vocabulaire de l'injure, par exemple, ou des injures plus subtiles, hein, vont évidemment relever de ce type d'usage performatif de la parole. Et il me semble que c'est des analyses qui sont très importantes et qui pourraient aussi permettre d'avoir une approche plus critique, hein, des usages actuels. Et par exemple, beaucoup de minorités ont voulu aussi reprendre les injures à leur compte et les assumer, comme par exemple le mot queer qui était autrefois une injure et que donc certains ont décidé de revendiquer précisément.
Ou dans la communauté noire américaine, le mot nigger, nègre,
voilà, et il me semble que cette force, ce pouvoir du langage peut toujours être retourné. Hein. C'est cela qui fait vraiment l'importance de cette dimension du langage, mais c'est aussi cette responsabilité qu'on a dans l'usage du langage.
Jacques Devitte, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'imagine que non, parce que vous dénoncez dans le politiquement correct, au contraire, une forme d'euphémisme destinée à dissimuler la réalité, à ne pas vouloir la nommer, et donc quelque part l'héritière du langage totalitaire.
Mais on est toujours dans l'entre-deux. Il y a toujours, tout à travers ce livre, je mets toujours en évidence des dualités, des tiraillements, une tension fondamentale entre le pôle du langage, en effet, avec sa dimension créatrice, voire constructive, et d'autre part, le pôle du réel. Et selon les situations, évidemment, il y aura plus une accentuation sur l'un ou sur l'autre. Évidemment, je suis en partie proche de ces théories de Austin, donc le performatif, dire c'est faire, dire c'est créer, mais en même temps, là j'apporte un correctif, selon précisément cette manière que j'ai de maintenir les deux pôles, de ne pas perdre de vue l'autre pôle. On peut aller trop loin, parce que tout de même, ce pouvoir du langage, peut-on dire que le langage crée ex nihilo, ou que non, il y a toujours quelque chose comme un réel. Il faut même supposer que il y a quelque chose comme un réel, comme une nature aussi. Ça nous ramène aussi à notre antithèse nature-culture, l'antinomie du naturalisme et du culturalisme que dans d'autres écrits je remets en question.
Mais l'interdit de nommer, oui, parce que le politiquement correct est aussi un interdit de nommer, comme la langue totalitaire interdisait de nommer certaines réalités parce qu'elles n'étaient pas conformes à l'idéologie dominante. Myriam Drouot-Dallone.
Oui, moi je crois, c'est ce que j'allais dire justement. Il me semble que ce qu'il y a de commun, au fond, au langage totalitaire et au politiquement correct, c'est qu'ils parlent tous les deux le langage de la conformité. Dans la démocratie, il y a quelque chose qui effectivement pose problème, qui est l'ambiguïté au fond de la notion même d'opinion, c'est-à-dire qui peut désigner à la fois la capacité à juger, l'opinion publique au sens noble du terme, c'est la capacité à juger, et puis c'est ce que Tocqueville appelait aussi la tyrannie du nombre. Bon. Et donc le politiquement correct, on voit très bien comment, d'une certaine façon, à un certain moment, il devient ce qu'il faut dire pour parler comme tout le monde.
Avec un risque de revanche dans l'espace privé, très bien Jacques Devitte, à savoir que ce qui est interdit de dire en public ressort évidemment de manière extrêmement violente en privé.
En privé.
Et c'est ce que nous vivons.
Oui, faudrait quand même voir aussi que cet usage, enfin, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est que les critiques qui ont été portées sur le politiquement correct ne viennent pas de n'importe où. Enfin, je veux dire, elles viennent aussi souvent d'intellectuels qui se sont portés en faux contre les luttes minoritaires. Et je pense aussi qu'il faut quand même là aussi comprendre qu'il puisse être très très légitime de pas avoir envie de se faire traiter de youpin quand on est juif ou de pédale quand on est homosexuel, et que là il n'y a pas forcément une simplement un processus de conformité, mais simplement justement remettre en place le fait que le langage n'est pas naturel, que les mots ont une histoire. Je pense que là aussi il y a comme comme idée de fracasser justement cette naturalité du langage, et que c'est important aussi en démocratie de penser les mots. D'ailleurs, il y a un collectif plutôt d'extrême gauche qui s'intitule Les mots sont importants.
Oui, bien sûr.
Myriam Revaud-Allonne.
Là par exemple, moi je ne spécifiais pas, quand je parlais du politiquement correct, je ne voulais pas dire qu'on était autorisé à proférer n'importe quelle injure raciste sous prétexte de ne pas être dans le politiquement correct, mais on voit très bien effectivement que il y a dans une zone qui serait presque une sorte de zone grise plutôt du langage et pas la zone des extrêmes, un certain usage des termes, une sorte de manière de parler qui est à la fois encore une fois, moi je suis quand même très frappée par cette espèce de conformisme, de nécessité de la conformité, et en même temps une sorte de manière d'arrondir les angles du réel, si je puis dire, hein. Donc c'est vrai qu'il y a un jeu.
Je voudrais juste citer un exemple. Par exemple, lorsqu'on dit ou qu'on écrit de Jofrane Hadaoui, 23 ans, française d'origine tunisienne, qu'elle a été tuée à coups de pierre dans des circonstances non élucidées. Je cite là LCI du 27 novembre 2006. Alors que la mère de cette jeune fille, Monia Hadaoui, a dit « Les mosquées m'ont dit, il ne faut pas parler de lapidation, j'ai reçu des lettres de menaces, ils ne voulaient plus que je parle de lapidation. » Alors ça a des effets de sens extrêmement précis. Par exemple, seul un des garçons qui a jeté des pierres a été inculpé, les autres ont été mis en accusation pour non-dénonciation de crimes, et on voit bien que le mot lapidation, qui avait des connotations religieuses extrêmement précises, a été là interdit par un centre de médias, enfin la plupart de ces médias, parce qu'il était politiquement incorrect. Donc, Sandra Lugier.
Alors, je crois que là aussi, il faut peut-être faire des différences entre une euphémisation systématique, comme dans ce cas-là, hein, qui est en effet un travestissement de la réalité, et par ailleurs toute la discussion sur le politiquement correct, parce que il me semble, comme vous le suggériez, que malgré tout il y a aussi vraiment en France un conformisme de la critique du politiquement correct, hein. C'est vraiment la tarte à la crème, vous n'entendrez jamais quelqu'un qui ne critiquera pas le politiquement correct.
Julie vient de le faire.
Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même une sorte de réflexe, parce que précisément on n'aime pas trop non plus ce type de langage un peu différentialiste qui a caractérisé pas mal de combats minoritaires, et je suis tout à fait d'accord avec votre analyse en laquelle en effet ça arrondit trop les angles, c'est un processus d'euphémisation, mais il faut quand même aussi s'interroger sur la possibilité qu'ont des termes en effet de blesser réellement, et je crois qu'on n'est peut-être pas toujours sensible.
Est-ce que quand le réel est blessant, est-ce qu'on doit évacuer le réel, oui, parce qu'il peut blesser une minorité?
Alors, est-ce qu'il faut évacuer le réel? Non, mais il faut peut-être apprendre à ne pas être blessé, mais il faut quand même reconnaître le caractère blessant des termes, et je crois que là c'est un travail à faire, et il me semble que il y a aussi un conformisme de la non-euphémisation, c'est-à-dire qu'il y a un conformisme du faux franc-parler, hein, je ne veux pas faire d'allusion à qui que ce soit, mais il y a un type de langage un peu brutal, un petit peu qui prétend dévoiler la réalité, dire les choses telles qu'elles sont, et qui en fait n'est pas du tout, ne fait pas du tout cela. Donc il me semble que il y a une sorte de style aussi un peu, du dévoilement, donc dans la parole, un style justement pseudo-sincère, qui n'est pas forcément aussi le plus authentique. Donc je crois qu'il faut toujours naviguer, faire des différences, naviguer entre des extrêmes, hein, comme vous le disiez.
Jacques Deville, vous terminez, c'est quand même assez symptomatique, votre ouvrage sur deux pages qui sont consacrées à Sarkozy et à cette fameuse racaille qu'il a nommée, et vous dites, et moi ça m'a plutôt étonné de la part de quelqu'un comme vous justement, si exigeant dans l'utilisation du langage, vous dites, ah ben voilà, lui il a appelé un chat un chat. Alors on pourrait aussi se dire qu'il a utilisé un mot de manière outrancière ou déplacée, et qu'après tout pour un ministre, le réel n'est pas forcément le même, enfin en tout cas la façon de nommer le réel n'est pas forcément la même que celle que les gens ont dans ce qu'on appelle des quartiers, là je suis d'accord avec vous, l'expression est une expression qu'on pourrait, qui est assez mauvaise. Mais justement, vous critiquez tous ces termes, quartiers sensibles, etc., pour finalement trouver que Sarkozy se trouve dans la bonne utilisation du langage en employant ce terme racaille. Ça m'étonne.
Je rappelle quand même le contexte. C'était, il enquêtait en tant que ministre de l'Intérieur sur un crime qui avait été commis. Un garçon de 14 ans avait pris une balle dans la tête, une balle perdue, dans un échange entre deux bandes rivales qui s'affrontaient à coups de fusil en bas d'un immeuble. Oui. Le garçon en question avait 14 ans. Il était en train de laver la voiture de ses parents. Donc on peut estimer qu'effectivement, celui qui a tiré une balle perdue sur la tête d'un enfant de 14 ans et qui l'a tué, méritait un mot relativement virulent. Peut-être que ce mot est déplacé, en tout cas, beaucoup de médias l'ont dit, mais
peut-être que délinquant ou même criminel était plus.
Justement, un ministre de l'Intérieur doit nommer ceux qui sont des criminels par leur nom.
Jacques de Vitry.
Oui, vous faites allusion à ces quelques pages de ma conclusion qui elle-même reprennent ce que j'avais publié un an, un texte intitulé justement « Appeler un chat un chat », pour reprendre d'ailleurs l'exemple qui avait été cité tout à l'heure, la lapidation. Pourquoi ne pas appeler lapidation une lapidation? Bon, il me semble que là, à mes yeux, l'exigence est d'appeler un chat un chat. Dans d'autres circonstances, effectivement, ce n'est pas le langage le plus direct qui s'impose. Il faut avoir certaines précautions, bien sûr. Alors, en ce qui concerne cette analyse, enfin, ce fragment d'analyse du propos de Sarkozy, enfin, il y a tout un contexte, que je n'ai peut-être pas rappelé ici. Il n'a fait que, il répondait à une interpellation,
la fenêtre lui avait dit nous débarrasserez-vous de cette racaille.
C'est notoire, enfin ça a été dit par plein de gens, ça fait partie du vocabulaire des banlieues.
On n'est pas forcé quand on est ministre de l'Intérieur de reprendre les termes utilisés sur place par les intéressés.
C'est ça l'objection peut-être la plus pertinente, c'est voilà. Un ministre devait-il... mais j'ai entendu dire d'autres choses. Par exemple, ça rejoint notre débat, ce qui a été dit sur les performatifs tout à l'heure. On a pu dire, oui, mais enfin, est-ce que en employant ce mot, est-ce que vous ne rendez pas ces jeunes délinquants? Est-ce que ce n'est pas par la vertu du langage, le pouvoir du langage, ne les rend-il pas violents? Comme s'il y avait une innocence au départ et que donc cette parole malheureuse aurait créé de la violence. Non, je crois que là,
elle a créé deux camps, et ça, c'est pas
raison.
Forcément
de
la part d'un ministre mettre le pays en bataille.
Vous dites dans votre livre, justement, dans le passage incriminé, il se trouve en effet que le mot repris par le ministre fait partie du langage des cités. Oui, bien sûr. Mais est-ce que il relève de la fonction ministérielle? Mais je veux dire, et quand je dis fonction ministérielle, ça veut dire fonction institutionnelle et fonction politique, de reprendre précisément le vocabulaire par lequel ou avec lequel des cités se désignent eux-mêmes. C'est là, il y a autre chose. Il n'est pas question d'ailleurs ici de parler de moi je ne parle pas à ce titre-là de, comment dire, ce n'est, le problème n'est pas de savoir si c'est le détenteur du pouvoir qui doit ou pas utiliser le même vocabulaire que les dans le rapport dominant dominé, mais est-ce que celui qui
utilise la langue commune, voilà. Je pense que c'est ça l'histoire.
C'est un problème de fonction symbolique.
Je rappelais il y a 5 ans la fantastique déconnexion qui a été enregistrée et qui a été punie par les lecteurs entre une classe politico-intellectuelle qui parlait une certaine langue déconnectée de la réalité vécue par les gens, et il me semble que depuis 5 ans il y a eu un effort d'une partie de cette classe politique, en tous les cas de cette fraction de la classe politique qui aspire réellement à exercer le pouvoir et qui ne se contente pas d'exercer une vocation populiste et protestataire, mais sur ceux qui sont réellement intéressés par l'exercice du pouvoir, il y a eu un effort fait depuis 5 ans pour se réapproprier la langue commune, celle des cafés, comme on dit, celle des gens au quotidien, et donc de nommer les problèmes qui nous assaillent. Et effectivement, la tentative de Sarkozy s'inscrit probablement dans ce sens-là, comme on pourrait citer beaucoup d'autres exemples chez les autres candidats sérieux à cette élection. Myriam Robaudel.
Oui, c'est là où la frontière avec langage, la démagogie est très très difficile à, comme dire au fond, à tracer, effectivement, parce que bien sûr, je veux dire, quand on dénonce la fracture entre le langage des politiques, des technocrates, des élites, etc., et leur absence de communication avec ceux qui parlent la langue commune, moi je me pose toujours la question de savoir si l'effort de la classe politique pour se faire comprendre, si ça doit consister à parler la langue commune telle qu'elle est parlée et à ce moment-là, au prix effectivement d'une dérive démagogique, ou bien si ça doit consister plutôt à articuler d'une certaine façon la langue commune avec quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie, hein, de l'explication.
Ou du réel, parce il faut reconnaître que le langage technocratique ces dernières années a eu tendance à éloigner la classe dirigeante de des réalités vécues, des classes populaires et moyennes. Et de ce point de vue-là, il faut croire que cette réappropriation du langage commun par la classe dirigeante a probablement pour vertu de la rapprocher des réalités vécues par les quartiers, par les classes populaires et moyennes.
Par exemple, moi je me pose ici la question de savoir si le langage commun, sous prétexte qu'il est commun, est-ce qu'il donne immédiatement accès au réel.
Bien sûr que non.
Bon, c'est un problème aussi, donc voilà.
Jacques De Witt.
Oui, enfin, dans cette discussion, je voudrais rappeler ce que je soulignais dans mon texte et dans ma conclusion. Je dis à ceux qui s'indignent de ce terme dans la bouche du ministre de l'Intérieur, on devrait renvoyer la balle en demandant « Mais alors, comment proposez-vous de nommer les individus incriminés ?» Donc, ne pas partir du langage, mais partir des choses mêmes. Bon, compte tenu de ce comportement, comment alors souhaitez-vous le nommer?
On n'est pas dans le cadre d'une volonté de description de la réalité. Là, on est en effet dans le cadre d'un acte de parole démagogique destiné à séduire d'une certaine façon par l'emploi d'un vocabulaire et pas du tout dans une véritable analyse. Je crois que c'est toujours ça la difficulté.
De se rapprocher de la dame qui a sa fenêtre.
Et
on va retrouver les coupables. Les punir, voilà, et les juger,
une certaine volonté et un positionnement. Donc là, je crois que là, en l'occurrence, la dimension d'action de la parole, elle est tout à fait évidente dans cet exemple. Donc je ne pense pas qu'on puisse voir ça comme une analyse. Et très souvent, également, lorsqu'il y a un recours à des expressions un petit peu ordinaires, populaires, prétendument, pour en effet donner l'impression d'une plus grande proximité avec les réalités, tout ça est quand même aussi extrêmement calculé. Donc je ne pense pas là seulement à Sarkozy, hein. Je crois que c'est extrêmement partagé par l'ensemble du discours politique. Et moi, je suis très souvent frappée par l'inauthenticité très forte d'un certain type de langage qui se veut authentique, ordinaire.
Oui, mais Sandra Logier, quand on dit la vie chère plutôt que le pouvoir d'achat, c'est pas simplement un artifice de langage, c'est aussi une façon de prendre en charge une dimension qui était méconnue il y a 5 ans, à savoir la dégradation du pouvoir d'achat d'une grande partie de cette population. Donc c'est pas innocent le partage avec les électeurs, avec les couches populaires et moyennes, encore une fois, du langage qu'elles utilisent, c'est aussi une façon de faire remonter jusqu'à nos élites dirigeantes des préoccupations qui sont celles de la population. Donc un coup pour Racaille, un coup pour Vichère. Mais je voudrais revenir au livre de Jacques De Witt, parce qu'il me paraît extrêmement important sur plusieurs points, notamment celui-ci. Il y a eu un grand malentendu Est-Ouest, évidemment, en fonction du vécu respectif de chacun des côtés du rideau de fer pendant les 50 années de régime communiste. À l'Est de l'Europe, l'expérience du mensonge totalitaire a fait du simple bon sens une espèce de valeur libératrice, hein, comme le rappelle Jacques De Witt. À l'Ouest, au contraire, nous, on demande à être bousculé, à être dérangé. La valeur d'une œuvre d'art se mesure à son côté transgresseur. Quelques écrivains d'Occident, et comme c'est par hasard, c'est ceux en particulier sur lesquels travaille Jacques De Witt, et c'est le cas de George Orwell, ont essayé de mettre un peu la balle au centre et de nous faire partager l'expérience commune. Et je pense en particulier à cette expression d'Orwell que j'apprécie personnellement énormément, le fait de parler au nom des ordinary decent people, des gens décents et ordinaires. Alors, pour nous, la décence, la mesure, les gens ordinaires, tout ça, ça a des connotations populistes, encore qu'on voit aujourd'hui à quel point il y a une revanche de ces valeurs-là dans la campagne électorale. Mais comment surmonter, en tous les cas, cette source d'incompréhension entre les intellectuels des deux côtés du rideau de fer, alors que l'Europe s'est réunifiée? Jacques De Witt.
Là, votre question prend un peu au dépourvu. Oui,
pourtant, c'est une de celles que vous posez dans votre
livre. L'Est, l'Ouest, bien sûr, Orwell. En effet, il y a un terme qui est important chez lui, common decency. Donc là quelque chose. Bon, comment traduire ça? Décence, oui, mais on pourrait presque dire, dans un certain langage convenu, surtout chez les intellectuels, il est presque indécent de parler de décence. Donc, voilà, avec le bon sens anglais qui était le sien, ben, n'hésitez pas à mettre ça en avant. Oui, oui, on a presque une peur, une pudeur à revenir à des notions aussi claires. En tout cas, là je crois qu'il y a, j'en suis sûr, sans avoir été faire des enquêtes sociologiques sur le terrain, ce dont on serait bien incapable, je crois qu'il y a en effet une coupure entre ce qui se dit ici à Paris et probablement ce qu'il est convenu d'appeler une certaine France profonde ou d'autres, où les gens ne se reconnaissent pas dans cette incapacité à dire des choses de manière assez simple ou à admettre l'importance d'un sens moral, d'un certain sens de l'autorité, puisque dans le milieu type même et un autre, tout de suite toute référence à une autorité est incriminée comme fascisme, abominable violence, etc.
Ou même on arrive à une vérité partagée sur laquelle on puisse se mettre d'accord.
Partagée. En démocratie, naturellement, il y a une discussion sur ce qui c'est bien normal. Enfin, il faut tout de même admettre qu'il y a quelque chose comme des valeurs de ce type-là. Et là, en effet, ça a été aussi le rôle, l'importance de ces intellectuels, de ces écrivains,
Moi, je suis assez frappée par, justement, par exemple, quand on reprend cette parler ou non des gens ordinaires, on voit bien qu'on est en plein dans l'ambiguïté. Hein, et constamment, vous dites au début de votre livre, au fond, on est toujours entre deux chaises. D'une certaine façon. Enfin, le langage est entre deux chaises, on est entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans cet enjeu fondamental qu'est la reconnaissance, effectivement, il y a deux manières, enfin, où il y a plusieurs manières. Enfin, la reconnaissance est elle-même un concept extraordinairement compliqué et ambigu, hein, puisque ça peut aller jusqu'à la servitude volontaire. Donc, d'une certaine façon, qu'un intellectuel ou un énarque ou quelqu'un qui fait partie des élites se mette à parler comme les gens ordinaires pour se faire reconnaître, c'est extraordinairement ambigu. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que ça veut dire que nous n'avons le choix qu'entre parler un langage complètement autiste, complètement coupé des réalités? Vous preniez l'exemple tout à l'heure, on a substitué au pouvoir d'achat la vie chère.
Ségolène Royal.
Non, Ségolène Royal, d'accord. Elle parle de vie chère plutôt que de pouvoir d'achat. C'est une question extraordinairement compliquée. Je veux dire, moi, je trouve que c'est très, très difficile, au fond, d'adhérer complètement à cette position, ou au contraire de la critiquer complètement, parce que il me semble que
vous n'êtes pas sensible à mon argument, à savoir que quand Jospin parlait de pouvoir d'achat, il avait l'air de nier la dégradation de ce pouvoir d'achat. Quand Ségolène Royal parle de vie chère, elle prend en charge le sentiment. On a fait déjà une émission dans le cadre de cette série pour dire que ce n'était peut-être pas complètement exact pour tout le monde, mais enfin, le sentiment vécu par les classes populaires en particulier, c'est celui d'une dégradation de leur pouvoir d'achat.
Est-ce que ça n'est pas... je suis très partagée. Franchement, je suis très partagée parce que je me pose la question de savoir si l'adhésion au sentiment ne se fait pas quelque part au détriment de quelque chose qui est de l'ordre de l'explication. Après tout, on peut-être arriver à expliquer aux gens...
C'est comme Rakhine. C'est le sentiment de la dame.
Oui, mais est-ce que l'adhésion, comment dire, au sentiment, ou est-ce que le fait d'aller comme ça vers le sentiment... Il y a ici un mouvement extraordinairement, touché à l'affectivité sans passer par la médiation de la rationalité, c'est très très difficile. Mendès France, par exemple, faisait tous les samedis matins une causerie, le peu de temps où il a été, que j'ai réécouté il y a pas quelques années sur France Culture, où c'était absolument... Alors peut-être que ça n'est plus possible maintenant, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette espèce de volonté d'explication. C'est pas pareil. Expliquer des choses, essayer d'expliquer simplement des choses compliquées. Alors
il me semble malgré tout que, avec cette attention aux gens ordinaires et une nouvelle sensibilité qu'on va voir à cela, il y a quand même quelque chose d'important et qui est révélé là précisément un certain type d'explication intellectuelle, et même à la classe intellectuelle, parce qu'il est quand même frappant que ce soit en effet auprès d'hommes ou de femmes politiques qu'on trouve une sorte de sensibilité à la vie ordinaire et aux sentiments quotidiens des gens qui, semble-t-il, n'ont pas été pris en compte, en fin de compte, ces dernières années, dans la vie intellectuelle, dans le discours des intellectuels. Et notamment parce que, comme Myriam Revaud-Allen le rappelait, il y a aussi une sorte de conformisme de la classe intellectuelle. De ce point de vue-là, c'est vrai que je regrette un peu qu'on rejette rituellement les grandes figures de l'intellectuel critique, parce que, en fin de compte, les intellectuels critiques répondaient à une forme aussi de sensibilité politique et de révolte qui a disparu d'une certaine façon du discours intellectuel, de toutes les figures. Alors là, on va pas, même s'il faut donner des noms, ici, je ne vais pas tous les donner, mais c'est vrai que tous les intellectuels un peu médiatiques importants ont été des intellectuels plutôt conformistes, du côté, en effet, du pouvoir très souvent, et disons, insensibles à une sorte de souffrance ordinaire des gens. Et il est assez curieux.
La misère du monde, quand même.
Non, mais justement, je disais qu'on rejette Sartre, Bourdieu, Foucault, alors que eux ont effectivement eu cette approche réellement critique.
On les rejette pas tellement, on les entend beaucoup
mais
plus
je
que ceux d'en face.
Exactement. Écoutez, il me semble, je crois qu'il y a malgré tout chez les intellectuels maintenant une sorte de rejet de ces figures-là au profit d'un intellectuel qui serait plus raisonnable, plus réaliste et en fin de compte.
La revanche de Raymond.
Et il me semble que là, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été entendu.
Justement, Jacques David, vous disiez tout à l'heure que nous avions été trop marqués en France par les intellectuels critiques dont vous disiez que leur pensée touchait parfois au nihilisme. Mais on peut se demander si on n'assiste pas justement aujourd'hui à la fin totalement de cet intellectuel critique. Quand on voit le ralliement, par exemple, politique des figures d'intellectuels plus, à mon avis, plus médiatiques que critiques. Enfin, ça dépend. Encore, il faudrait aller dans le détail. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de revenir vers cette décence commune, en tout cas une sorte d'impression qu'ils sont allés, peut-être que le mouvement les porte à nouveau vers la décence commune, dont on peut aussi, et après ce serait une autre émission, mais montrer les limites.
Tout à fait.
Jacques David.
Oui, je crois qu'il y a lieu d'affiner ce que nous avons mis en avant au début de l'émission, enfin ou ce que moi-même j'ai dit, mis en question de l'intellectuel critique. Qu'est-ce qui n'allait pas Et il me semble que ça tient à ce que Paul Ricoeur, dont nous avons parlé tout à l'heure, avait appelé très justement la figure du soupçon, le discours du soupçon, se référant à Nietzsche, Marx, etc. Qu'est-ce que c'est le soupçon? C'est soupçonner, c'est démystifier, mettre en question le discours explicite et toujours dire il y a des intérêts de classe, des pulsions, etc. Il me semble que ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas dans cette démarche fondamentale de l'intellectuel critique que moi je remets en question, mais sans remettre en question la démarche critique elle-même, évidemment, ce qui n'allait pas, c'était précisément ce discours systématiquement démystificateur. A n'est que B, ce qui se donne.
C'est au nom de cela qu'on dit ça, sont ceux qui pensent ou qui défendent tels intérêts, qui ont telle et telle position, et objectivement ils servent tels intérêts, donc on invalide tout discours au nom des intérêts supposés que tel discours était censé porter.
Et je crois
d'où parles-tu, camarade, comme on disait en 71.
Est-ce que c'est un discours critique ou un discours hyper critique? Moi, il me semble que la distinction avait été, si je me souviens bien, Vievorka, je crois, je me souviens d'un article où il avait montré au fond la différence qu'il y a entre un intellectuel hyper critique qui répondrait plutôt à la position que vous décrivez, et puis l'intellectuel critique. Donc là, on pourrait peut-être faire une distinction un peu plus fine.
Et là, est-ce qu'il y a moyen, Jacques David, d'accorder donc nos intellectuels dissidents, ex-dissidents de l'Europe centrale et nos intellectuels critiques occidentaux?
Moi, je crois qu'il y a une leçon à tirer de ça, de ce qui n'allait pas, c'est que l'intellectuel doit cesser d'apparaître comme une sorte de machine à décrypter et à démystifier. Et je crois qu'il y a, nous ne nous rendons pas assez compte aussi, parce que nous sommes entre intellectuels, mais enfin, on nous regarde aussi, on nous entend de l'extérieur, et parfois pour de bonnes raisons, il me semble qu'on nous trouve un peu ridicule dans cette posture de la dénonciation systématique. Mais en même temps, voilà, comment... Mais
esthétiquement, c'est plaisant, on dirait. L'indignation, toujours, l'indignation et la révolte sont des postures assez valorisantes.
Et le contraire, ça serait quoi, alors, le contraire de l'indignation? Qu'est-ce que vous proposez comme autre posture, alors? Parce que sinon, c'est le conformisme.
Non,
l'exercice, peut-être l'exercice. Non, la réflexion, tout simplement.
Je ne sais pas si l'homme ordinaire a envie de l'expertise aussi, je crois qu'il faut...
Mais
pas forcément non plus.
Comme vous l'avez dit, effectivement, donc il y a des analyses à faire. La raison garde ses droits. C'est la tâche de l'intellectuel, qu'il soit philosophe, sociologue, de proposer des analyses, de faire réfléchir. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord, mais pas dans cette posture de la...
Entre l'indignation et la résignation, il y a tout un, au fond... Une échelle de possibilités extrêmement large.
Merci de nous les indiquer. Je rappelle le titre du livre de Jacques De Witte qui nous réunissait aujourd'hui, c'est « Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit », sous-titre « Essai sur la résistance au langage totalitaire ». Ça vient de paraître chez Michalon. Vous êtes donc philosophe. Sandra Laugier, merci d'avoir été là et d'avoir donné la réplique à Jacques De Witte. Vous êtes justement une spécialiste, vous, de philosophie du langage, et votre dernier livre qui vient de paraître s'appelle « L'ordinaire et la politique », c'est paru au PUF, et vous êtes donc professeur de philosophie à l'université d'Amiens. Myriam Revaud-Allonne, vous êtes professeur des universités à l'école pratique des hautes études, et votre dernier livre, qui va sortir en avril, donc ça sera le dernier, c'est « Modernité et sécularisation », et vous le co-signez avec Michael Fostel et Jean-François Kervégan.